Alors, vous savez le thème du jour ?
L'espérance en lien avec la souffrance.
En lien avec la souffrance. Alors, je vais vous parler aussi de l'agir. Grosso modo, aujourd'hui, je vais suivre Benoît XVI dans son encyclique sur l'espérance, dans les numéros 35 à 40, plus ou moins. Parce que, donc, Benoît XVI nous donne... parle de plusieurs lieux d'apprentissage de l'espérance. Alors, il parlait de la prière comme lieu d'apprentissage, mais ça, on a vu ça la fois dernière. Et aujourd'hui, il parlait, la partie suivante, c'est l'action et la souffrance comme lieu d'apprentissage de l'espérance. Alors, c'est donc le thème du jour. Alors, donc je vais parler d'abord de l'action... Et puis après, mais pas très longuement, et après je m'arrêterai davantage sur la souffrance. Et alors je vous dirai... je réfléchirai. Quelle attitude adopter devant la souffrance, alors ? Et trois éléments fondamentaux d'humanité, comme le dit Benoît XVI. Il parle de la compassion... du fait d'accepter la souffrance par amour du bien, de la vérité et de la justice. Et le troisième élément fondamental d'humanité, c'est le oui à l'amour qui est aussi source de souffrance. Et puis après, donc, il y aurait une autre petite partie. Où trouver la force, la capacité de souffrir ? Oh là ! Alors, je me risquerai, là. Et puis après, je terminerai sur quelque chose, sur les sacrifices. Oh, on est en carême, c'est pas encore terminé, vous avez encore... Ça va ? Bon, alors, voilà, tout d'abord sur l'action, donc la première partie, l'agir. Je vous cite Benoît XVI, « Tout agir sérieux et droit de l'homme est espérance en acte. » Il est avant tout dans le sens où nous cherchons de ce fait à poursuivre nos espérances, les plus petites ou les plus grandes, régler telle ou telle tâche qui, pour la suite du chemin de notre vie, est importante. Par notre engagement, apporter notre contribution, afin que le monde devienne un peu plus lumineux et un peu plus humain, et qu'ainsi les portes s'ouvrent sur l'avenir. Voilà, alors autrement dit... L'espérance, ce n'est pas non plus rester les bras croisés et puis attendre que ça arrive. C'est aussi faire un pas en avant. Je ne sais pas si je vous avais raconté, c'est Timothy Radcliffe, le maître, à l'époque, il était maître général de l'ordre des Dominicains, et puis il y avait un novice paresseux. Alors, il va lui poser une question. Donc, ce novice restait volontiers au lit. Alors, il lui pose des questions et il a répondu qu'il était un signe eschatologique attendant la venue du règne. Bon, il lui a dit, bon, c'est bon, mais maintenant tu te lèves. Voilà. C'est ce que dit Saint Paul d'une autre manière. Si quelqu'un ne veut pas travailler, ben, qu'il ne mange pas non plus. Voilà. Donc, l'espérance, ça implique aussi de faire un pas en avant. Et pas attendre, c'est pas une attente passive. Je pense qu'on a eu un week-end pour les célibataires il y a quelques semaines. Et, alors ça vaut pour eux, mais ça vaut pour nous tous d'une autre manière. Mais quelquefois, ou même pour une personne âgée, je trouve que. Les gens attendent qu'on les aide, c'est très bien, mais moi je leur demande, mais qu'est-ce que vous faites pour aider les autres ? C'est un peu l'idée, il faut se mettre aussi en marche, on n'attend pas uniquement passivement la grâce du bon Dieu, bien sûr le bon Dieu veut nous donner sa grâce, mais à un certain moment il faut peut-être voir ce que, à mon niveau, je peux faire. Bien sûr qu'on ne va pas demander à une personne âgée de courir le 100 mètres, sauf si elle est particulièrement en forme, mais qu'est-ce que je fais ? À mon niveau et comme je peux, qu'est-ce que je peux donner ? Et pas simplement être toujours à vouloir recevoir, mais uniquement recevoir. Je pense que, de toute façon, une relation, et l'espérance, hein, c'est vraiment ça touche notre relation avec Dieu. Et la relation, il faut que ça marche un peu dans les deux sens. Alors, avec Dieu, bien sûr, c'est inégal. Il nous donne beaucoup plus que ce qu'on peut lui donner, c'est évident. Mais il faut qu'il y ait, voilà, dans une relation, ce n'est pas uniquement un sens unique. Et dans l'espérance, je pense qu'agir, c'est au moins montrer notre bonne volonté. Comme dit la petite Thérèse, ben, le bon Dieu, il voit que j'essaie de monter la première marche et puis je n'y arrive pas, mais j'essaye. Et puis, au bout d'un moment, il me prend dans ses bras, il m'emmène en haut de l'escalier. Mais n'empêche qu'elle a essayé de monter la première marche. Et je pense que l'agir, c'est aussi ça, c'est essayer, bon, autant qu'on le peut. Après, on est limité, etc. Et puis après, le bon Dieu fait le reste. Mais voilà. Mais en même temps, nous dit Benoît XVI, ben, en même temps, on voit que nos actions sont très limitées et qu'on a besoin d'une grande espérance et pas seulement d'une petite espérance. Ça, c'est des choses qui reviennent souvent dans la parole de Dieu, où on voit que ce n'est pas uniquement par... il faut vraiment s'en remettre à Dieu à certains moments. On lui remet encore nos 5 pains et nos 2 poissons, mais après, on lui fait confiance. Et on ne fait pas confiance uniquement aux moyens humains, mais aux moyens de la grâce, à l'amour de Dieu. Voilà. Dans ce même ordre d'idée, donc, nous sommes appelés à poser des actes, à aller de l'avant. Là, je vous citerai peut-être surtout un passage du Concile Vatican II de Gaudium et Spes, qui nous dit qu'il faut bien distinguer le progrès terrestre de la croissance du règne de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez ce document du Concile, il y a plusieurs documents majeurs du Concile Vatican II. Il y a Lumen Gentium, qui est le document plus fondamental, Dei Verbum, et puis il y a Gaudium et Spes. C'est donc les joies et les espérances, hein, Spes, c'est l'espérance. Je vous le cite, ça sera mieux. S'il faut soigneusement distinguer le progrès terrestre de la croissance du règne du Christ, ce progrès, donc terrestre, a cependant beaucoup d'importance pour le royaume de Dieu, dans la mesure où il peut contribuer à une meilleure organisation de la société humaine. Donc, voilà, il y a notre part d'investissement humain est importante. Et en même temps, on a bien conscience que tout ce qui est d'ordre humain, bon, ça a besoin d'être purifié de toute souillure, ça a besoin d'être illuminé, transfiguré. Voilà. Donc, le royaume de Dieu n'adviendra pas sur la terre, hein, en tout cas dans sa plénitude, ça c'est clair, mais on peut déjà y travailler en tout cas, et le bon Dieu nous y invite. Voilà, alors ça c'était quelques mots que je voulais dire sur l'agir, mais je vais me concentrer davantage, si je ne vous ai pas encore endormi, sur la souffrance. Alors, c'est des paragraphes très très beaux, n'hésitez pas à aller, de toute façon, sur Internet, vous trouvez tout, ou vous pouvez acheter, bien sûr, à la librairie qui a rouvert ses portes, d'ailleurs, un petit flash. Donc, après des travaux, là. Spe Salvi, un document en 2007, je crois, il a 10 ans, ce document de Benoît XVI. Et alors, donc, sa première réflexion, c'est de dire « La souffrance fera toujours partie de notre vie. » Pour deux raisons. Parce que ça découle d'une part de notre finitude. Voilà. On n'est pas le bon Dieu, donc on est en chair et en os, donc... notre corps, tôt ou tard, on a quelques douleurs, hein, mais pas seulement au niveau corporel, mais voilà, la finitude et le péché. Hein, même indépendamment du péché, il y a de la souffrance. Hein, mais puis le péché, pas seulement notre péché personnel, mais voilà, le péché de l'humanité, alors qui se présente sous des formes multiples et variées, hein, mais voilà. Toujours est-il que ça a des conséquences après. Et donc, s'imaginer qu'on pourra avoir un monde sans souffrance, c'est illusoire. Ça fait partie. C'est la première chose. Alors, Benoît XVI nous dit, ben oui, mais c'est bien sûr, il faut essayer d'agir. Je vous le cite, il faut certainement faire tout ce qui est possible pour atténuer la souffrance. Empêcher, dans la mesure où cela est possible, la souffrance des innocents. Calmer les douleurs, hein, il n'est pas contre l'aspirine. Il n'est pas contre. Et aider à surmonter les souffrances psychiques. Voilà, alors, il faut y travailler. Hein. Il n'est pas doloriste dans le sens... voilà. Et dans l'Évangile, bon, il se nourrit de l'Évangile, hein, la parabole du bon samaritain, bon, on voit que voilà, le bon Dieu ne nous invite pas à rester passifs. Il y a celui qui a été roué de coups, qui est dans... Ben, voilà, ce que le bon Dieu attendait, c'est que quelqu'un lui vienne en aide et pas regarder la souffrance passivement. Donc, il y a certainement une action. On parlera un petit peu plus tard de la compassion, mais il y a une action à faire par rapport à la souffrance. Et dans le jugement dernier, c'est au chapitre 25 de Saint Matthieu, ben voilà, finalement, le jugement est fait par rapport... Est-ce qu'on a soulagé la souffrance de personnes? J'avais faim, vous me donnez à manger, j'étais étranger, vous m'avez visité en prison, j'étais malade, etc. Donc, c'est vraiment le bon Dieu attend quelque chose de nous. Donc, la souffrance, bien sûr qu'il faut essayer de soulager la souffrance. Mais en même temps, nous redit Benoît XVI, on peut... jamais éliminer complètement la souffrance du monde. Voilà. Et il va un peu plus loin en disant que ceux qui veulent absolument éliminer la souffrance se retrouvent devant une existence vide. Derrière ça, c'est est-ce que finalement notre vie ça se limite, et de fait dans notre monde on peut être tenté par ça, en tout cas de fuir la souffrance. Notre objectif, c'est pas ne pas souffrir, mais ça peut pas être un objectif pleinement humain. Si on veut toujours ne pas souffrir, en plus on se prépare des souffrances supplémentaires quand on veut pas souffrir. Donc la première chose, c'est réaliser, voilà, la souffrance fait partie de notre vie. Qu'on le veuille ou non, ça fait partie de notre vie. Et si on veut absolument l'éviter à chaque fois, ben, on va dans des catastrophes, parce que ben, la vie conjugale, c'est bien sûr toujours idéal, mais si vous ne voulez pas souffrir, ben, voilà, il faut arrêter, quoi. Parce que la vie communautaire, hein, c'est merveilleux, frère Gérard, la vie communautaire. Mais en même temps, certaines fois, il peut y avoir des choses difficiles. Et voilà. Et voilà. Mais ceux qui ne veulent pas souffrir, mais ils vont de catastrophe en catastrophe, finalement. Parce que on ne peut pas éviter... Ou alors, on a une vie, on ne s'engage pas pour ne pas souffrir, Mais c'est pas une vie vraiment humaine, c'est pas une vie qui a beaucoup de sens, c'est pas une vie qui a une plénitude. Hein, donc la souffrance, elle fera toujours partie de notre vie, qu'on le veuille ou non. Alors bon, on réclame pas la souffrance, hein, bien entendu, hein, c'est évident. Alors je vous ai cité Benoît XVI dans son encyclique Spe Salvi. Je pourrais citer aussi, et je le ferai, un document que Jean-Paul II avait donné sur le sens de la souffrance. Il avait donné ça, c'était en 1984, quand il avait parlé de la souffrance salvifique de... Voilà. Alors, je reviens sur... je vous cite Jean-Paul II. La souffrance semble appartenir à la transcendance de l'homme. C'est un des points sur lesquels l'homme est, en un sens, destiné à se dépasser lui-même. Et il est appelé d'une façon mystérieuse. Je vous cite maintenant Benoît XVI. Ce n'est pas le fait d'esquiver la souffrance, de fuir devant la douleur qui guérit l'homme, mais la capacité d'accepter les tribulations et de mûrir par elles, d'y trouver un sens par l'union au Christ qui a souffert avec un amour infini. Donc voilà, devant la souffrance, alors bien sûr, avant de dire ça, Benoît XVI a dit ben, il faut faire ce qu'on peut. Quand on voit quelqu'un qui souffre, ben, il faut essayer de l'aider. Et puis, on ne court pas derrière la souffrance, bien entendu. Mais à un certain moment, il faut quand même se réaliser qu'on ne peut pas enlever toute souffrance de notre vie. Et à un moment ou un autre, il faut l'affronter. Et justement, c'est plus facile peut-être à dire qu'à faire, hein, mais justement, c'est là que l'homme se dépasse lui-même, qu'il mûrit avec cette souffrance, grâce en quelque sorte à cette souffrance, qui peut s'unir d'une manière particulière à Jésus qui est mort et ressuscité par cette souffrance. Et Benoît XVI a une belle phrase aussi, pour assez percutante, je trouve. La mesure de l'humanité, on va mesurer notre humanité, se détermine essentiellement dans son rapport à la souffrance et à celui qui souffre. Si je n'ai pas de rapport avec la souffrance et celui qui souffre, ben je risque de ne pas être très humain. Donc c'est vraiment un lieu où on apprend l'espérance. Ben, je vous cite encore Benoît XVI, c'était dans un dialogue avec des prêtres. En reconnaissant ce devoir de travailler contre les souffrances causées par nous-mêmes, nous devons aussi reconnaître et comprendre que la souffrance est une part essentielle de notre maturité humaine. La souffrance est une part essentielle de notre maturité humaine. Je pense à la parabole du Seigneur sur le grain de blé tombé en terre qui ne peut que de cette manière, en mourant, porter du fruit. Et le fait de tomber en terre et de mourir ne représente pas simplement un moment, mais il s'agit véritablement du processus d'une vie. Donc la souffrance qui est une part essentielle de notre maturité humaine. C'est là que, certaines fois, quand on fuit la souffrance, il ne s'agit pas de porter des jugements sur les personnes, parce qu'il y a des gens qui vivent des choses très difficiles. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de mal avec la souffrance. On a beaucoup de mal, je pense, à des couples qui se sont séparés parce que les gens ne voulaient pas souffrir. Alors, et c'était pas non plus le mari qui battait sa femme, etc. Il avait besoin de le soutenir au jour le jour, et puis voilà, parce que bon, j'en ai marre, hein, toujours le soutenir, voilà, du coup on se sépare, et puis ben, voilà. Mais ça, c'est une immaturité de partir à ce moment-là. Alors, je ne veux pas dire que ce soit toujours facile, mais là, c'était pas non plus là. On a du mal à accepter la souffrance, quand même. Il y a des générations où peut-être les gens acceptaient davantage la souffrance. Bon, quelquefois, ils vivaient des choses impossibles, hein, je ne sais pas. Mais en même temps, ça, c'est vraiment une grande difficulté de pas... On fait comme on est, hein, mais on a besoin de s'entraîner aussi. Si, et ça va dans le sens de l'espérance, parce qu'on peut porter davantage que ce qu'on pense porter. Alors, d'avoir quelques aînés avant nous qui nous aident et qui nous encouragent, si, continue, tu tiens le bon bout, voilà, c'est précieux. Mais on a besoin de ne pas s'arrêter au premier. Bon, à des choses qui sont douloureuse, mais pas non plus impossible. Quand Jean-Paul II était venu à Lourdes le 15 août 83, il s'était adressé aux malades. Il leur avait adressé trois petites lumières. La première, c'était de prendre conscience de la souffrance sans la minimiser, sans la majorer. Et voilà, de mettre des mots peut-être sur sa souffrance, etc. Le deuxième pas, c'était comme trois étapes, c'était d'avancer sur la voie de l'acceptation. Parce que, dit Jean-Paul II, la foi nous assure que le Seigneur peut et veut tirer le bien du mal. Donc, première chose, c'était de prendre conscience, sans minimiser, sans majorer la souffrance. Après, pas seulement en prendre conscience, mais l'accepter. Alors, on a besoin de la grâce aussi pour ça. Et troisième pas qu'il proposait, c'était d'en faire l'oblation, offrir cette souffrance pour l'humanité. Et Jean-Paul II invitait justement les malades en disant qu'ils avaient une mission spéciale. Vous êtes les précieux coopérateurs du Christ dans l'application à travers le temps et l'espace de la rédemption. Voilà, donc, quand on souffre, on a une mission aussi. Et c'est important de le savoir que cette souffrance n'est pas inutile. Toujours dans ce rapport avec la souffrance, je vous cite de nouveau Benoît XVI. Là, c'est à des jeunes qui parlent, autant que je me souvienne. C'était le 5 avril 2009. Et il y a une phrase qui me plaît beaucoup. Il dit, mais il ne faut pas hésiter à se plaindre aussi quand on souffre. Et on peut crier vers Dieu. Alors, et c'est parce que donc c'était le dimanche des rameaux, et donc il commentait l'évangile de Saint Jean où Jésus dit « Mon âme est bouleversée ». Et voilà, je vous cite Benoît XVI qui dit « L'effroi de Jésus apparaît ici, souligné fortement par les autres évangélistes, son effroi devant le pouvoir de la mort, devant tout l'abîme du mal qu'il voit et dans lequel il doit descendre. Le Seigneur souffre nos angoisses avec nous. Il nous accompagne à travers l'ultime angoisse jusqu'à la lumière. Puis viennent en Saint Jean les deux demandes de Jésus. La première exprimée seulement au conditionnel. Que puis-je dire, dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure? En tant qu'être humain, Jésus aussi se sent poussé à demander que lui soit épargnée la terreur de la passion. Et nous pouvons aussi prier ainsi. Nous aussi, nous pouvons nous plaindre au Seigneur, comme Job le fit, lui présenter toutes les demandes qui, face à l'injustice du monde et aux troubles de notre propre moi, surgissent en nous. Devant lui, nous ne devons pas nous réfugier dans des phrases pieuses, dans un monde factice. Prier signifie toujours aussi lutter avec Dieu. Et comme Jacob, nous pouvons lui dire « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » Il ne faut pas se réfugier dans des phrases pieuses, mais vraiment dans... J'aime bien cette expression de Benoît XVI. Dans la prière, c'est cette acceptation dont parlait Jean-Paul II, ça ne se fait pas forcément si... C'est pas forcément si facile que ça, hein. Donc ne m'aide crier. La dernière fois, je crois que je vous avais dit pour les psaumes, hein, le bon Dieu nous apprenait, il nous donnait les mots pour apprendre notre prière, mais au-delà des mots, il nous apprend une attitude. Alors dans les psaumes, il y a des cris quand même. « Pourquoi dors-tu, Seigneur ?» Je ne sais pas. Mais c'est le bon Dieu qui nous donne ces mots pour prier. Hein, pour prier. Alors à des moments difficiles, il ne faut pas avoir peur de reprendre ces mots. Alors une réflexion de Marthe Robin pour la souffrance, je crois qu'elle en connaissait quelque chose quand même, mais qui montre aussi cet équilibre dans l'attitude vis-à-vis de la souffrance. Il ne s'agit pas de courir derrière la souffrance, bien entendu, mais voilà, Mais cette souffrance, grâce à Jésus, elle peut avoir une fécondité. Alors je vous cite Marthe Roubin, ou quelqu'un veut lire, pour changer de voix, pour vous réveiller, qui veut lire? Non, je lis. Bon. Ne nous créons pas nos souffrances. Bon, c'est clair, hein, c'est pas la peine d'en rajouter. Mais quand elles se présentent, comme Jésus, comme Marie, portons-les vaillamment. La souffrance prend la valeur que lui donne celui qui la porte. De grâce, ne souffrons pas pour rien, c'est trop triste. Je connais maintenant la joie la plus pure, la plus douce qu'on puisse connaître, celle de vivre pour les autres et pour leur bonheur. C'est en pensant aux souffrances de Jésus-Christ, à son amour rayonnant sur la croix, que je suis parvenu à m'unir à lui dans une communion intime et constante. Voilà, alors ça résume peut-être un peu cette attitude vis-à-vis de la souffrance, on ne court pas derrière, mais voilà, quand elle est là, ben on demande cette grâce justement en contemplant Jésus de la vivre au mieux, parce que nous savons aussi qu'elle a une fécondité. Ça va ? Alors, ça donc c'était, après avoir parlé de l'action, quelle attitude adopter dans la souffrance, devant la souffrance, là c'est trois éléments fondamentaux d'humanité que je vais vous dire à la suite de Benoît XVI. Donc ces éléments fondamentaux d'humanité, c'est la compassion, le fait d'accepter la souffrance par amour du bien, et le oui à l'amour qui est aussi source de souffrance. Donc je commence par la compassion. Voilà, je vous cite Benoît XVI. Il n'en reste pas moins que souffrir avec l'autre pour les autres, souffrir par amour de la vérité et de la justice, souffrir à cause de l'amour et pour devenir une personne qui aime vraiment, ce sont des éléments fondamentaux d'humanité. Leur abandon détruirait l'homme lui-même. Donc qu'est-ce qui fait qu'on ait un bel élément d'humanité? La compassion. Alors, je vous reprends cette parole que j'ai déjà citée tout à l'heure. La mesure de l'humanité se détermine essentiellement dans son rapport à la souffrance et à celui qui souffre. Alors donc, nous sommes invités à pas nous éloigner de ceux qui souffrent. Ce qui arrive souvent, c'est quand on voit quelqu'un qui souffre, on ne sait pas quoi lui dire, donc on évite de lui rendre une visite. Mais voilà, le bon Dieu ne nous demande pas forcément de dire beaucoup de paroles, mais quelquefois on n'a pas grand-chose à dire. Hein. Bon. Mais déjà d'être là, parce que sinon c'est encore pire quand quelqu'un ne va pas bien et du coup on ne va pas le visiter parce qu'on se trouve un peu penaud. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément grand-chose à dire, mais du coup, voilà, un premier élément, on pourrait dire, dans la compassion, c'est de s'approcher. C'est précisément ce que fait le bon samaritain. Les autres, ils s'éloignent, ils passent de l'autre côté de la route. Lui, il s'approche. Et c'est en s'approchant aussi. Si on ne s'approche pas, on ne voit pas ce dont l'autre a besoin, de toute façon. C'est quand on s'approche aussi qu'on voit. On ne pourra peut-être pas l'aider, ce n'est peut-être pas de notre sort. Il faut peut-être appeler les secours, je ne sais pas. Si on ne s'approche pas, c'est sûr qu'on ne verra pas trop. Voilà. Alors, bon, on a peur de s'approcher parce qu'on a peur que ça nous prenne. Voilà, donc. Avec une citation du pape François dans son encyclique Lumen Fidei. À l'homme qui souffre, Dieu ne donne pas un raisonnement qui explique tout, mais il offre sa réponse sous la forme d'une présence qui accompagne. Non, c'est pas des belles idées qu'on va lui dire d'abord. Alors je pense qu'il y a des paroles qui peuvent être bien, qui peuvent aider, mais c'est pas d'abord ça. C'est d'abord sous la forme d'une présence qui accompagne. Alors, je vous cite donc sur la parabole du bon samaritain, c'est Jean-Paul II. Cette parabole indique quelle doit être la relation de chacun d'entre nous avec le prochain en état de souffrance. Il nous est interdit de passer outre avec indifférence, un thème cher au pape François, mais nous devons nous arrêter auprès de lui. Le bon samaritain, c'est toute personne qui s'arrête auprès de la souffrance d'un autre homme, quelle qu'elle soit. S'arrêter ainsi, ce n'est pas faire preuve de curiosité. Hein. Il y a un accident, on va voir, mais pour aider, c'est pas pour voir. Mais de disponibilité. Hein. C'est pas pour faire preuve de curiosité, mais de disponibilité. Celle-ci est comme une certaine disposition intérieure du cœur qui s'ouvre et qui est capable d'émotion. On voit dans beaucoup de passages d'Évangile, c'est à partir du moment où on se laisse émouvoir par la souffrance des autres qu'on se met en route pour aider. Ces mouvements affectifs deviennent pour le Samaritain un stimulant qui l'amène à agir concrètement et à porter secours à l'homme blessé. Et alors, la compassion qui est comme un lieu d'humanité et d'humanisation, on pourrait dire. Alors, Jean-Paul II continue, donc c'est dans ce document « Salvi Fici Doloris », en disant que finalement, à travers la personne qui souffre, le Seigneur vient développer notre humanité aussi. En suivant la parabole évangélique, on pourrait dire que la souffrance, présentant des visages si divers à travers le monde humain, s'y trouve également pour libérer dans l'homme ses capacités d'aimer. Très précisément, ce don désintéressé du propre moi au profit d'autrui, de ceux qui souffrent. Le monde de la souffrance humaine ne cesse d'appeler, pour ainsi dire, un monde autre, celui de l'amour humain. Alors, du coup, et c'est vrai que beaucoup d'institutions, les hôpitaux, sont nés dans un milieu chrétien. C'est les œuvres de miséricorde, hein, sous diverses. Après, c'était repris par les pouvoirs publics, c'est très bien. Mais en même temps, à un certain moment, voilà ce que dit Jean-Paul II, l'éloquence de la parabole du bon samaritain et de l'évangile entier se résume avant tout à ceci. L'homme doit se sentir comme appelé à vivre vraiment, à titre vraiment personnel, à être le témoin de l'amour dans la souffrance. Les institutions sont très importantes et indispensables. Cependant, aucune institution ne peut par elle-même remplacer le cœur humain, la compassion humaine, l'amour humain, l'initiative humaine. Alors, on a l'exemple pour la compassion, on a l'exemple de Marie au pied de la croix. Marie au pied de la croix, elle n'attire pas l'attention sur elle, etc. Quelquefois, on s'apitoie plus sur sa propre souffrance que sur la souffrance des autres. Elle souffrait, Marie, clairement, mais elle n'était pas tournée vers elle-même, elle était tournée vers Jésus à ce moment-là. Et là, on ne dit pas qu'elle faisait grand-chose. Au pied de la croix, elle ne faisait pas grand-chose. Matériellement parlant, elle ne donnait pas des coups de balai aux soldats. Mais elle était là pour Jésus. Hein, alors Marie nous montre aussi à certains moments comment nous situer. Il n'y a pas forcément très efficace. Mais elle était là debout. Mais ça allait plus loin que ça, la compassion de Marie. Marie était là aussi, elle coopérait par son obéissance. Alors, il y a une phrase du Concile Vatican II, alors là, c'est Lumen Gentium. Je vous cite à propos de Marie. Ainsi, la bienheureuse Vierge avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix, où, non sans un destin divin, elle était debout, souffrant cruellement avec son Fils unique, associé d'un cœur maternel à son sacrifice, donnant à l'immolation de la victime née de sa chair le consentement de son amour. Marie n'était pas... Elle consentait aussi à cette offrande, ce qui était... C'est un pas supplémentaire que d'être là et tout ça. C'est... Voilà, elle comprenait certainement pas... Elle avait pas en main tous les tenants et les aboutissants, mais elle, voilà, elle faisait confiance à Dieu. Et encore un peu plus loin même, c'est les pères de l'Église qui disaient que toute la foi et l'espérance de l'Église, à ce moment-là, reposaient dans le cœur de Marie. Marie gardait l'espérance. La compassion est un acte de foi qui voit plus loin que l'immédiat. Et parce que, d'une manière un peu mystérieuse, mais Marie, elle ne savait pas exactement comment ça se ferait, mais elle savait que ça ne serait pas le point final. Et du coup, c'est déjà, elle pressentait la lumière de Pâques, d'une certaine manière. Voilà, alors ça c'était quelques mots sur la compassion. Quelques mots maintenant pour accepter la souffrance par amour du bien, de la vérité et de la justice. C'est Benoît XVI qui se pose la question et qui nous pose la question. La vérité est-elle pour moi si importante pour payer la souffrance ? Je vous le dis. La vérité est-elle pour moi si importante pour payer la souffrance, c'est ça ?
Non, accepter la souffrance,
pour amour du bien. Oula, vous me déstabilisez là. Hein.
C'est pas grave, ça doit être la souffrance. Deuxième élément, juste après la compassion, accepter la souffrance.
Pardon ?
La deuxième élément, c'est des membres.
Ah oui, alors le premier, c'était sur la compassion, se faire proche de la personne qui souffre. Le deuxième, c'est faire passer le bien avant le bien-être, pour faire court, par amour du bien, de la vérité, de la justice. Oui, c'est ça, accepter la souffrance. Voilà, j'arrive. Pardonnez. Oui, accepter la souffrance par amour du bien, de la vérité, de la justice. Alors, je vous cite Benoît XVI encore, au numéro 38. La capacité d'accepter la souffrance par amour du bien, de la vérité et de la justice est constitutive de la mesure de l'humanité. Parce que si en définitive mon bien-être, mon intégrité sont plus importants que la vérité et la justice, alors la domination du plus fort l'emporte. Alors règne la violence et le mensonge. La vérité et la justice doivent être au-dessus de mon confort et de mon intégrité physique. Autrement, ma vie elle-même devient mensonge. C'est ce qu'on disait un peu avant. Est-ce que mon critère ultime, c'est d'éviter la souffrance ? Ben, à ce moment-là, je suis prêt à toutes les compromissions pourvu que je souffre pas trop. Mais ça, c'est pas une vie très belle, quoi. Si on fait que des compromissions pour voilà. Mais alors, du coup, ça suppose d'avoir une conviction forte. Je prends un exemple. Vous attendez un bébé et ça se présente mal. Alors tout le corps médical, en plus ils veulent se protéger parce que sinon on les traînera en procès s'ils n'ont pas détecté je sais pas quoi. Alors du coup il faut avoir une conviction forte pour dire non, je veux le garder, qu'il soit handicapé, pas handicapé, c'est pas le problème, je veux le garder. Il faut une conviction forte. Si on n'a pas une conviction forte, c'est compliqué. À ce moment-là, c'est la capacité d'accepter la souffrance par amour du bien, de la vérité, de la justice. Mais il faut avoir des convictions assez fortes, sinon. Et du coup, ça suppose de former aussi notre intelligence pour voir ce qui est bien, ce qui est vrai. Parce que quand les gens ne sont pas très formés, c'est facile hein, de les manipuler dans un sens ou un autre. Mais ça, c'était très présent dans l'enseignement de Jésus, dans l'Évangile. Ce fait d'accepter la souffrance sous des manières diverses et variées. Je vous cite quelques versets de l'Évangile. « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se charge de sa croix chaque jour. La route qui conduit au royaume est étroite et resserrée. Voilà. Ou alors, encore, c'est dans Saint-Luc, encore. « On portera la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, etc. Vous serez livrés même par vos pères et mères, vos frères, vos proches et vos amis. On fera mourir plusieurs d'entre vous et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. C'est par votre constance que vous sauverez vos vies. » Donc Jésus ne nous a pas dit que notre vie serait sans souffrance, hein. Et mais en même temps que Jésus annonce la souffrance, il annonce aussi qu'on aura une force pour porter la souffrance. Justement dans le passage que je viens de dire, mettez-vous donc bien dans l'esprit que vous n'avez pas préparé d'avance votre défense, car moi je vous donnerai un langage et une sagesse à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. Ou alors vous vous rappelez peut-être des martyrs du Japon, Paul Miki, donc ils les ont crucifiés, et eux étaient dans la joie alors qu'ils étaient crucifiés. Bon, c'est pas, je crois qu'ils avaient une grâce très particulière, hein. Voilà, c'est un peu mystérieux, mais dans les actes des martyrs, ça c'est quelque chose qui revient. On voit que d'une façon assez mystérieuse, voilà, ils ne sont pas écrasés par la souffrance, alors que, objectivement, voilà, c'est une souffrance. Alors, c'est vrai, pas seulement dans l'enseignement de Jésus, mais aussi dans sa vie. C'est l'épître aux Hébreux qui nous dit « Au lieu du plaisir qui lui était offert, il a enduré la croix. » C'est au chapitre 12 de l'épître aux Hébreux, au verset 2. « Au lieu du plaisir qui lui était offert, il a enduré la croix. » C'est exactement ça. Hein. « Accepter la souffrance par amour du bien, de la vérité et de la justice. » Et comme par contraste, on voit l'attitude de Pilate. Dans le récit de Saint Jean, à trois reprises, je crois, il voit aucun motif de condamnation. Il le dit, mais Moïse lave les mains et puis il le livre. C'est pas très cohérent. Mais par peur de souffrance, par peur d'avoir des ennuis, par voilà. Et Jésus nous appelle à une cohérence. Si on voit que c'est la vérité, ben voilà. Et Jean-Paul II, je vous cite toujours Jean-Paul II dans Salvi Pici Doloris, où il parle des martyrs. La souffrance est aussi un appel à manifester la grandeur morale de l'homme, sa maturité spirituelle. Les martyrs et les confesseurs du Christ des diverses générations en ont donné la preuve par leur fidélité à ses paroles. Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. La grandeur morale de l'homme, voilà. Le bien est plus important que mon intégrité physique. Encore une fois, bon, on le dit en tremblant parce que on n'a pas forcément envie de souffrir et voilà. Donc, mais en sachant qu'une grâce nous est donnée, si on suit Jésus, il nous donne la grâce aussi qu'il faut. Voilà. Ça, c'était. Alors, il y avait trois éléments fondamentaux d'humanité. Il y avait la compassion, il y a le fait de cette grandeur morale où je suis fidèle à mes convictions et à ce que je pense être vrai, bon, juste. Et puis la troisième chose, c'est le oui à l'amour qui est aussi source de souffrance. Je vous cite encore Benoît XVI, dans ce Salvi toujours. « Le oui à l'amour est aussi source de souffrance, parce que l'amour exige toujours de sortir de mon moi, où je me laisse émonder et blesser. L'amour ne peut nullement exister sans ce renoncement qui m'est aussi douloureux à moi-même. Autrement, il devient pur égoïsme et de ce fait, il s'annule lui-même comme tel. C'est assez concret, je pense, pour vous aussi. Aimer, je prends un exemple communautaire. Mais aimer les frères, ça peut être aussi renoncer à notre manière de chanter si ça ne s'accorde pas avec les autres. L'amour implique un renoncement. Si je veux aimer l'autre mais que je ne suis pas prêt à renoncer, ben, j'aimerais pas beaucoup. Hein. Alors on peut discuter, bien sûr, voir qu'est-ce qui serait bien, mais à un moment ou à un autre, il faut accepter des renoncements. Si on n'accepte pas les renoncements, alors c'est ça aussi que veut dire le oui à l'amour est aussi source de souffrance, parce que renoncer, c'est pas très facile, renoncer à ce qu'on pense être une bonne idée, et voilà, alors on veut avoir raison à tout prix, voilà, c'est, l'amour implique de renoncer. Raniero Cantalamessa parle de différents niveaux de l'amour. Il parle de l'amour captatif, hein, mais ce qui n'est pas un vrai amour, où voilà, on aime, j'aime le chocolat, mais ce n'est pas de façon désintéressée pour le chocolat. C'est pour moi, bien sûr. Mais là, comme c'est le carême, Marie-Pierre n'en a pas apporté, alors je vais devoir attendre la fois prochaine. Bon, après, il y a l'amour... Bon, l'amour oblatif, qui est déjà quelque chose de beau, un amour de générosité, etc. Mais Raniero Cantalamessa dit qu'il y a une étape ultérieure à cet amour oblatif. Parce que dans l'amour de générosité, il peut y avoir une certaine part d'orgueil et de retour sur soi. Voilà, je suis bon et puis je donne aux autres. Et voilà. C'est l'amour qu'il appelle, je crois, l'amour de souffrance. Accepter de souffrir pour les autres et par les autres. Et ça, c'est une plus grande maturité dans l'amour, quand on accepte ça. Est-ce que ce n'est pas très glorieux de souffrir pour les autres ? Leur donner plein de choses et tout ça, bon, notre ego peut s'y retrouver un petit peu, mais souffrir pour les autres, c'est plus compliqué que notre ego s'y retrouve. C'est ça, le oui à l'amour est aussi source de souffrance, hein, cet amour aussi qui accepte de souffrir. Je vous cite encore Benoît XVI, alors là c'était dans un dialogue avec des prêtres en 2007. Certes, le christianisme nous donne de la joie parce que l'amour donne de la joie. Mais l'amour est toujours également un processus où l'on se perd soi-même. Et donc également un processus où l'on sort de soi-même. En ce sens, c'est également un processus douloureux. Et c'est uniquement de cette manière qu'il nous fait mûrir et arriver à la joie véritable. Ceux qui affirment ou qui promettent une vie qui serait seulement joyeuse et confortable mentent, parce que cela n'est pas la vérité de l'homme. La conséquence est que l'on doit ensuite se réfugier dans des paradis artificiels. Donc il y a un processus douloureux dans l'amour, parce qu'il y a une part de renoncement à soi-même, voilà, qui n'est jamais très évidente. Je vous cite cette fois-ci le pape François, j'aime bien citer les papes, hein, décidément je saute de l'un à l'autre. Quand nous choisissons l'espérance de Jésus, nous découvrons petit à petit que la manière gagnante de vivre est celle de la graine, celle de l'amour humble. Il n'y a pas d'autre voie pour vaincre le mal et donner l'espérance au monde. La manière gagnante de vivre, c'est de mourir. Donc, grosso modo, c'est ce qu'il dit. Hein. C'est d'accepter de... Certes, cet amour vrai passe à travers la croix, le sacrifice, comme pour Jésus. La croix est le passage obligatoire, mais elle n'est pas le but, elle est un passage. Et après, donc, le pape François prend l'image de la femme qui enfante. Elle est dans la peine, c'est dans Saint Jean, au chapitre 16, verset 21. Elle est dans la peine parce que son heure est arrivée, mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, tout heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Et voilà, alors c'est le processus de l'amour, c'est du même ordre. C'est quelque chose qui donne la vie, mais qui passe par des souffrances. L'accouchement n'est pas sans douleur. Donc ça, c'était les trois éléments d'humanité, fondamentaux d'humanité, la compassion, l'amour du vrai, l'amour qui accepte de se dépouiller quelque part pour... Alors, où trouver la force, la capacité de souffrir? C'est le numéro 39 de Spes Salvi. Je vous cite encore Benoît XVI. Encore une fois surgit la question, en sommes-nous capables? C'est bien beau, mais en sommes-nous capables? L'autre est-il suffisamment important pour que je devienne pour lui une personne qui souffre? La vérité est-elle pour moi si importante pour payer la souffrance? La promesse de l'amour est-elle si grande pour justifier le don de moi-même? À la foi chrétienne, dans l'histoire de l'humanité, revient justement ce mérite d'avoir suscité dans l'homme, d'une manière nouvelle et à une profondeur nouvelle, la capacité de souffrir de la sorte, qui est décisive pour son humanité. Donc, la foi qui nous donne une certaine capacité de souffrir. Alors, par la suite, Benoît XVI détaille un petit peu en disant combien le fait de contempler la croix de Jésus est quelque chose d'important pour nous. Alors, on se prépare, là, on va rentrer dans le temps de la Passion. Parce que la croix, c'est vraiment un lieu d'espérance. C'est un peu paradoxal, quelque part, mais je vous cite... Pape François, comment est l'espérance de la croix? Regarde la croix, regarde le Christ crucifié, de là t'arrivera l'espérance qui ne disparaît plus, celle qui dure jusqu'à la vie éternelle. C'est pas une petite espérance, c'est une grande espérance. Hein, il y avait au Crux Spes Unica, non, il n'y a pas un vieux chant qui disait ça. Je suis pas très bon, hein, mais. Alors, parce que dans la croix, d'abord, il y a cette proximité de Jésus. Dieu a voulu souffrir pour nous et avec nous. Et à travers la croix, il nous manifeste que l'homme a pour Dieu une valeur si grande que lui-même s'est fait homme pour pouvoir compatir avec l'homme de manière très réelle, dans la chair et le sang. La souffrance ne peut devenir supportable que lorsqu'elle est pénétrée par la lumière de l'amour. Et justement, c'est là que la croix de Jésus est nous aider. Alors, Jésus n'a pas attendu la croix pour être proche de ceux qui souffrent. On voit, il était proche des malades, etc. Mais il l'a été encore plus quand il a accepté de prendre sa croix et de mourir sur la croix. Donc c'est déjà cette présence de Dieu qui est venue se faire proche de toutes nos souffrances. C'est aussi ce fait de se savoir aimé par Dieu de manière inconditionnelle. C'est saint Paul qui revient souvent, hein, rien... ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Voilà. Et il dit, ma vie dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Alors, il y a cette proximité de Jésus, il y a ce fait que je sais que Dieu m'a aimé, Et il y a aussi un sens à la souffrance qui nous est donné à travers la croix de Jésus. Alors, je vous cite encore le concile Gaudium et Spes. C'est donc par le Christ et dans le Christ que s'éclaire l'énigme de la douleur et de la mort qui, hors de l'Évangile, nous écrase. Mais, encore une fois, ce n'est pas uniquement une lumière abstraite ou d'ordre intellectuel, c'est... Et il ne s'agit pas d'aimer la souffrance, mais il s'agit d'aimer Jésus qui souffre. Hein, c'est autre chose. C'est pas là. Jésus ne propose pas une théorie sur la souffrance, mais il nous invite à... Il se fait proche de nous par sa croix. C'est Jean-Paul II qui parlait de la souffrance comme un appel, une vocation. Le Christ n'explique pas abstraitement les raisons de la souffrance, mais avant tout il dit « Suis-moi, viens, prends part avec ta souffrance à cette œuvre de salut du monde qui s'accomplit par ma propre souffrance, par ma croix. » Au fur et à mesure que l'homme prend sa croix en s'unissant spirituellement à la croix du Christ, le sens salvifique de la souffrance se manifeste davantage à lui. L'homme ne découvre pas cette signification au niveau humain, mais au niveau de la souffrance du Christ. Mais en même temps, de ce plan où le Christ se situe, ce sens salvifique de la souffrance descend au niveau de l'homme et devient en quelque sorte sa réponse personnelle. C'est alors que l'homme trouve dans sa souffrance la paix intérieure et même la joie spirituelle. Et il y a pas mal de paragraphes de Jean-Paul II sur cette réflexion. Il montre que en suivant Jésus qui souffre, ben petit à petit, Dieu nous travaille et nous rend ouverts à l'action des forces, de la force de Dieu. Vous pourrez lire toute cette lettre de Jean-Paul II, hein, Salvifici Doloris. Et pour beaucoup de saints, la souffrance est vraiment une occasion de rencontre assez intime avec Jésus. Alors il suffit de penser à François d'Assise, hein, c'est vraiment qui a reçu les stigmates. Voilà. Mais donc c'est une proximité particulière de Jésus ou une citation d'Élisabeth de la Trinité. Je ne peux pas dire que j'aime la souffrance en elle-même, mais je l'aime parce qu'elle me rend conforme à celui qui est mon époux et mon amour. Oh, vois-tu, cela met dans l'âme une paix si douce, une joie si profonde, et on finit par mettre son bonheur dans tout ce qui est contrariant. Je ne sais pas si vous en êtes là. Petite maman, essaie de mettre ta joie, non pas sensible, mais la joie de la volonté, dans toute contrariété et tout sacrifice, et dis au maître, je ne suis pas digne de souffrir cela pour vous. Je ne mérite pas cette conformité avec vous. Bon, je ne sais pas si on en est là, mais ça, c'est après la résurrection. Vous voyez les apôtres là qui repartent, et tout heureux d'avoir été jugés dignes d'avoir souffert pour le nom de Jésus. Hein, ça, c'est après la Pentecôte. Ça a changé quelque chose. Donc, dans la perception de la souffrance, il y a une proximité de Jésus qui se fait. Hein, donc, c'est pas quelque chose de théorique, mais voilà. Toujours Élisabeth de la Trinité. Oh mon Dieu, vous savez que si je souffre, si je désire surtout tant souffrir, ce n'est pas en pensant à mon éternité, mais seulement pour vous consoler, pour vous ramener des âmes, pour vous prouver que je vous aime. Voilà, pour fortifier l'amour de... Donc la souffrance, elle devient féconde. Et ça, c'est très précieux de savoir. Quand on sait que notre souffrance peut avoir une fécondité, ben, c'est quelque chose qui nous aide. Alors, je pense à Marthe Robin. Voilà une citation de Marthe Robin. Ô Jésus, Jésus, je vous aime. Je suis heureuse dans toutes mes souffrances, toutes mes épreuves, mes afflictions, mes peines, mes chagrins. Je les offre à Dieu afin que toutes servent à répandre sur les âmes les trésors infinis de vérité, de grâce et de miséricorde cachés dans le sein de Dieu. Alors avec cette phrase, j'entre dans la dernière partie. Là, je viens de conclure. Les sacrifices. Est-ce que vous êtes au point là? On est à la dernière ligne droite du carême. Alors, ça, il y a une citation très connue de Saint Paul. Là, je sais pas le. Autant que je me souvienne, c'est dans les Colossiens, au chapitre 1, verset 24, mais je peux me tromper. Hein, voilà. C'est. Je complète dans ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour l'Église, pour son corps qui est l'Église. Et alors, c'est. Nos souffrances, c'est pas nos souffrances en elles-mêmes qui ont une valeur, c'est dans la mesure où elles sont unies à celles de Jésus, hein, que c'est une valeur. Et c'est Jésus qui leur donne une valeur, c'est pas nous par nous-mêmes, mais dans la mesure où nous sommes unis à Jésus, voilà, elles prennent une valeur. Je crois que il me semble que c'est le curé d'Ars qui disait quelque chose. Vous voyez, quand vous êtes là, je vaux quelque chose, c'est comme le zéro à côté du 1, ça fait 10. Mais quand vous n'êtes pas là, ça fait toujours zéro. On pourrait dire la même chose vis-à-vis de Jésus. Nos souffrances, s'il n'est pas là, ça fait toujours zéro, mais s'il est là devant, ça fait 10. Voilà. C'est lui qui leur donne de la valeur. Et alors, Benoît XVI un paragraphe, c'est le numéro 40. Il parle d'offrir les petites peines du quotidien. Je voudrais encore ajouter une petite annotation qui n'est pas du tout insignifiante pour les événements de chaque jour. La pensée de pouvoir offrir les petites peines du quotidien qui nous touchent toujours de nouveau comme des piqûres plus ou moins désagréables. Leur attribuant ainsi un sens. Donc ça, cette pensée était une forme de dévotion, peut-être moins pratiquée aujourd'hui, mais encore très répandue il n'y a pas si longtemps. Dans cette dévotion, il y avait certainement des choses exagérées, peut-être aussi malsaines. Il faut se demander si quelque chose d'essentiel, qui pourrait être une aide, n'y était pas contenu de quelque manière. Que veut dire offrir ? Ces personnes étaient convaincues de pouvoir insérer dans la grande compassion du Christ leur petite peine, qui entrait ainsi d'une certaine façon dans le trésor de compassion dont le genre humain a besoin. De cette manière aussi, les petits ennuis du quotidien pourraient acquérir un sens et contribuer à l'économie du bien, de l'amour entre les hommes. Peut-être devrions-nous nous demander vraiment si une telle chose ne pourrait pas redevenir une perspective judicieuse pour nous aussi. Je pense que c'est. Vous pourrez essayer, mais c'est vrai d'offrir des choses qui ne sont pas très agréables. Mais savoir que, voilà, ça pourra servir. Jésus s'en servira comme il veut, mais voilà, c'est pas inutile. C'est quelque chose qui nous aide. Et qui nous aide à porter les choses désagréables en évitant de râler. Jean-Paul II parlait justement, c'est dans cette même perspective, de surmonter le sentiment d'inutilité de la souffrance. Cette impression qui est parfois profondément enracinée dans la souffrance humaine, mais qui devient une source de joie quand justement on surmonte ce sentiment d'inutilité. Non seulement la souffrance ronge intérieurement la personne, mais elle semble faire d'elle un poids pour autrui. Cette personne se sent condamnée à recevoir l'aide et l'assistance des autres, et en même temps, il lui apparaît à elle-même qu'elle est inutile. La découverte du sens salvifique, hein, le salut de la souffrance, en union avec le Christ, transforme ce sentiment déprimant. La foi dans la participation aux souffrances du Christ porte en elle-même la certitude intérieure que l'homme qui souffre complète ce qui manque aux épreuves du Christ. Voilà. Et que je suis utile. Et là, il parle encore des malades qui sont loin d'être des personnes inutiles pour la mission de l'Église, mais que voilà, qui, les malades qui sont tellement importants aussi. On ne sait pas les grâces qu'on a eues, de qui elles nous viennent. Alors, de Jésus, bien sûr, mais qui a pu intercéder? Peut-être quelqu'un qui était au fond de son lit, qui est tout seul, voilà, mais qui invisiblement... voilà, comme la petite Thérèse, hein, qui, quand elle souffrait à la fin de sa vie, sa courte vie, bon, elle faisait un pas pour les missionnaires à l'autre bout. Ils n'étaient pas forcément au courant, mais voilà, une manière. Mais c'est en Jésus que ça porte du fruit, encore une fois. Voilà, alors, quelques lieux d'apprentissage de l'espérance. Donc, vous allez tester cet apprentissage. Il ne s'agit pas de courir derrière la souffrance, mais il y en a déjà qui sont là, alors commençons par ça. Et puis, mais ça nous donne aussi un certain dynamisme spirituel d'offrir des sacrifices. Quelqu'un qui ne fait jamais aucun sacrifice, je doute un peu de sa vitalité spirituelle. Parce que ça passe par là aussi, ça passe par là. Voilà. Encore une fois, il ne s'agit pas de macération malsaine, c'est pas ça, mais il y a de toute façon, il y a plein de choses qui nous contrarient dans une journée, je pense, ou plus ou moins, ou voilà, qui nous énervent. Ou qui, voilà. Donc ça fait des belles occasions à offrir, des belles choses à offrir. Voilà, vous avez peut-être des questions. Là, je vous ai déprimé, non. Non, c'était pour espérer.
À la lumière de ce que vous dites au sujet de la souffrance, on peut conclure que la souffrance est utile.
Oui, la souffrance est utile. Elle est utile dans la mesure où elle est offerte. Hein, c'est Père André qui prenait l'image du gaz. Vous ouvrez le robinet de gaz, comme ça vous intoxique. La souffrance, elle nous intoxique comme ça. Mais si, pas quand le gaz a tout rempli, mais au départ, vous mettez une petite allumette, ben, vous pouvez vous chauffer, vous éclairer, vous, voilà, et faire votre cuisine. Voilà, donc, mais la souffrance, c'est un peu ça. Soit elle peut nous intoxiquer complètement, on peut et nous empoisonner complètement la vie, la souffrance, ça c'est vrai. Mais si on a cette petite étincelle qui nous vient de notre foi et de notre expérience, alors... Ben, c'est plus compliqué pour eux, c'est plus compliqué quand on a la chance de savoir que ça peut être utile, que dans l'invisible notre souffrance elle n'est pas perdue et qu'on n'est pas un poids mort pour la société. C'est quand même un peu désagréable à vivre quand on est une personne âgée et puis qu'on a l'impression d'être cause de souffrance pour tous les autres et puis d'être inutile. Et voilà, donc on a envie de disparaître dans ces cas-là. Hein. Je ne veux pas être un poids pour les autres. Oui, la souffrance perdue, si on ne l'offre pas, ben elle est perdue. Hélas, c'est là le grand dommage. Hein. C'est ce que disait Marthe Robin dans cette phrase. Non, je vais la retrouver. Elle disait, c'est trop bête, il ne faut pas... Voilà. La souffrance prend la valeur que lui donne celui qui la porte. Si on ne lui donne pas de valeur, on n'en aura pas. De grâce, ne souffrons pas pour rien, c'est trop triste.
C'est ça qui m'intéresse, moi, c'est de savoir...
Alors là, j'adopte le profil bas. mais en même temps, je pense déjà d'être là. Alors, ça sera déjà une petite espérance. Hein, Benoît Selle parle de déjà le fait d'être là humainement, tout ça, c'est déjà quelque chose. Mais la grande espérance, il n'y en a pas 50. Hein, il y a que Jésus qui nous donne cette grande espérance. Mais alors après, on peut prier pour la personne, pour qu'elle découvre. Mais quelquefois, ça vient par d'autres personnes extérieures ou de faire écouter un témoignage. Je ne sais pas, après, il y a des témoignages de personnes qui souffrent, qui peuvent quelquefois aider. On n'est pas forcément, quand on est très proche de quelqu'un, quelquefois, on n'est pas forcément le mieux situé. Ou quand c'est quelqu'un de notre famille, ou voilà, pour faire un discours. Mais une personne un peu étrangère, quelquefois, elle est...
Mais Adèle, elle veut dire que si quelqu'un souffre et qu'il ne veut pas, qu'il ne croit pas, c'est difficile de... Si tu lui dis... si vous croyez que vous lui dites, il va vous dire, mais toi, c'est facile, tu crois. En fait, les gens, ils pensent que quand on croit, du coup, nous, c'est plus facile. Ça, quelque part, c'est vrai. Et du coup, c'est difficile de faire passer notre message. Et je ne crois pas.
Ça ne me gêne pas d'être repoussé. On va dire, mais tu ne veux pas comprendre. Mais comment trouver la...
Je crois que ça passe un petit peu par le son de l'encontre de soi, par les équipes de renouvelé dans les hôpitaux. C'est comme vous disiez tout à l'heure, déjà être là, être présent, écouter. Et parfois, le fait que la personne se sent écoutée par une tierce personne, elle se met à parler. Et des souffrances intérieures même apparaissent. Et parfois, il y a des petites lumières qui passent, mais qui sont indépendamment au-delà de nous, parce que c'est le Seigneur qui passe.
Oui.
Donc c'est la présence, la compassion, essayer de rejoindre la personne dans sa souffrance. Et après, le fait d'avoir parlé, si les incroyants disent, ah ben oui, ça me fait du bien.
Oui, je n'ai pas de recette, mais effectivement, on peut... On est devant la liberté de la personne, et du coup, on peut... La personne, il y a une manière aussi de témoigner qui n'est pas pour justement pour l'enfoncer, ou voilà, mais je pense de témoigner ce qui, moi, m'aide, mais... Les gens sentent si on fait un peu pression ou si on ne fait pas du tout pression. On dit, ben, voilà, moi, voilà ce qui m'aide. Mais on ne cherche pas du tout à la convertir de force. Après, il y a quelquefois des lectures ou des... quand la personne est... Après, on peut avoir une part de... On peut faire tomber peut-être aussi des fausses idées. Toi, c'est facile, tu as la foi, mais en fait, tout le monde peut... Enfin, tout le monde... en tout cas, le Seigneur se présentera à chaque personne, à un moment ou à un autre. Donc, après, ça dépend de l'ouverture du cœur. Il y a peut-être aussi un autre élément qui me vient à l'esprit, c'est sur la question du pardon. Parce que je crois que la souffrance est quelquefois décuplée si on a le cœur qui est... On a pas mal d'amertume dans le cœur. On a un sujet de souffrance particulier, mais si c'est... ça vient comme amplifier les choses si on a le cœur qui n'a pas pardonné. Alors, quelquefois, il y a... Peut-être ça peut être un autre biais pour... après, ça c'est éminemment personnel, encore une fois, mais... On peut quelquefois... oui, ça peut être une autre...
En parlant du pardon, justement, quand on peut poser la question aux malades, comment vous vous sentez, si vous êtes en paix, et quand la personne ne se sent pas bien, elle peut parler justement de toutes ces... tout ce passé, parfois, avec de la famille, des enfants ou autres. Et petit à petit, en parlant de l'amour humain, quelque chose qui peut se passer. pour retrouver cette paix et cette unité en soi.
Je pense qu'il ne faut aussi pas oublier de faire intervenir les anges gardiens avant de rencontrer une personne malade. Les prier et il se passe toujours quelque chose.
Oui, je pense que... Alors après, on l'exprime d'une manière diverse. Ça peut être d'invoquer les anges gardiens, effectivement, qui sont bien là. Ça peut être aussi de demander à l'Esprit Saint d'avoir un petit moment d'intériorité avant d'aller voir la personne pour être simplement attentif à ce qui nous vient à l'esprit, que le bon Dieu voudra nous inspirer à ce moment-là pour la personne. Donc, quelquefois, c'est des choses... Au début, on ne sait pas très bien pourquoi on parle de ça, mais d'être un instrument docile entre les mains de Dieu autant qu'on le peut, et puis que voilà, mais sachant qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible au-delà de ce qu'on pourra dire. Voilà.
Je pense qu'il faut rester aussi ouvert au fait que quand on va voir une personne malade ou souffrance, on arrive un peu comme si c'était nous qui donnions quelque chose. Je pense qu'il faut aussi recevoir la personne. La personne souffrante, elle a quelque chose à donner. Elle a quelque chose à nous apprendre. Donc il ne faut pas y arriver en conquérante. C'est moi qui donne, c'est moi qui. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment rester humble et se dire que la personne souffrante donne. Et nous ouvre énormément sur le cœur, l'esprit. Et nous fait grandir notre foi.
Puis après, il y a la différence aussi entre la souffrance physique et la souffrance morale. Quelqu'un qui souffre physiquement, c'est peut-être plus facile que quelqu'un qui souffre moralement. La souffrance morale, c'est très difficile.
On arrête là ?